19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le 14 décembre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Vos oreilles sont en quête de nouvelles sonorités, d'une musique à écouter qui serait un peu différente, originale. Vous tombez bien, le 4 décembre dernier est sorti l'album Collector du musicien Patrice Elégoët, Chapi Chapeau, de son nom de scène, qui, si vous ne le connaissez pas, utilise des instruments un peu particuliers. On en discute au téléphone avec lui. Bonjour Patrice Elégoët.
Bonjour.
C'est quoi votre premier souvenir de musique ?
Alors, mon premier souvenir de musique, ouais, ça doit remonter. Hein. Je sais que j'ai été beaucoup marqué par mon premier concert debout, une expression qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais mon premier concert debout, c'était un concert d'Alan Stivell qui faisait un petit peu son retour, son comeback sur scène, et c'était dans la grande salle de Pinfeld à Brest. Et puis, je devais avoir 12 ans, et puis j'avais trouvé ça super de voir... des milliers de personnes debout devant un concert, dansant et hurlant, criant, chantant. Donc voilà, c'est un chouette souvenir que j'ai. Je devais avoir 11 ans, je pense, 11-12 ans.
Et qu'est-ce qui vous intéressait, qui vous touchait dans la musique par rapport à d'autres arts, comme, je ne sais pas, le dessin, les livres, etc.
Quand j'étais enfant ?
Ouais, et même maintenant
Quand j'étais enfant, la musique m'intéressait beaucoup, mais Je pense que l'accès à tout ce qui était art plastique, sculpture, musée, tout ça, c'était moins facile. Mais peut-être que c'est juste parce que j'étais un enfant. Mais je crois qu'enfant, je m'intéressais déjà à pas mal de choses. Je sais que ma mère me parlait de peinture, me montrait un peu les travaux des grands peintres classiques. Et voilà.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est vers la musique que vous êtes dirigé et pas vers la peinture, la sculpture?
Ah ben ouais, alors c'est assez simple, c'est que je reparle encore de ma mère, elle voulait vraiment que je sois musicien et que je pratique un instrument de musique, donc elle m'a un peu dirigé vers la musique de façon assez forcée d'ailleurs. J'avais le choix de l'instrument, mais il fallait que je fasse de la musique. Donc j'ai commencé la flûte traversière quand je devais avoir 7 ans à peu près. Et puis après j'ai continué... J'ai continué jusqu'à la fin jusqu'au bac.
Et justement, est-ce que, c'est quoi votre parcours académique, si je peux dire, en lien avec la musique? Parce que là, vous parliez de la flûte. Est-ce que vous avez fait un instrument par la suite? Est-ce que vous avez fait des études qui étaient en lien avec la musique?
Non. Alors, la flûte traversière, c'était en école de musique, donc accompagnée évidemment de cours de solfège, puisque c'était obligatoire. Et puis, donc j'ai continué comme ça. Et puis, quand j'ai eu un petit niveau, j'ai commencé à jouer un petit peu en groupe avec des copains, que ce soit dans des groupes de rock, j'ai même fait du funk, musique bretonne aussi. J'ai fait pas mal de flûte traversière en festounose. Et puis après, j'ai joué dans un groupe de un peu punk aussi, toujours avec ma flûte traversière, que j'ai délaissé assez naturellement quand j'ai découvert justement le jouet musical.
Sur la question du jouet, on y reviendra évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce que la musique vous apporte concrètement ?
Ah ben, la musique, ça m'apporte beaucoup de choses, parce que comme pour beaucoup de monde, je pense que la musique, c'est un peu l'art, l'art le plus, qui touche le plus de monde sur la planète. Ça fait beaucoup de bien à plein de gens. Et puis moi-même, j'aime bien la musique parce que ça me transmet beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, ça peut me faire danser, ça peut me faire m'attrister, la musique est omniprésente dans ma vie et comme dans celle de beaucoup de gens, la musique, on sent que c'est, enfin, il est rare de rencontrer des gens qui n'aiment pas la musique ou qui n'en écoutent pas du tout. Il y en a bien sûr et c'est normal, mais je pense que la musique, ouais, c'est vraiment un art. Un des plus importants qu'il existe.
Et donc, votre nom de scène, c'est Chapi Chapeau. Pourquoi ce nom ?
Alors, pourquoi ce nom ? Quand j'ai commencé à faire de la musique tout seul dans mon coin avec mes petits jouets, j'ai cherché un nom et puis j'ai repensé à ce film d'animation, alors qui est assez ancien, je crois qu'il date de la fin des années 60. Il faudrait que je vérifie une bonne fois pour toutes, mais je crois que c'est fin des années 60. Et donc, c'était deux petits personnages qu'on ne voit plus trop, mais qui restent quand même dans la mémoire collective. Deux petits personnages qui évoluaient dans une ambiance assez géométrique, remplie de cubes colorés. Et puis, la musique était super, super chouette, novatrice. Elle était signée de François Roubaix, qui était compositeur de musique de film, en partie. Et voilà, c'était une musique avec des sons de synthé qu'on n'était pas habitué à entendre, même dans les années, début des années 80. En tout cas, moi, ces sons me surprenaient. Et puis voilà, c'était un petit clin d'œil à ce dessin animé qui m'a marqué.
Maintenant, si on parle de votre style, vous faites ce qu'on appelle de la toy music. Pour moi, évidemment, je me suis renseignée, mais pour les personnes qui écoutent, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi ça consiste?
Ouais, alors c'est un terme super générique qui en gros englobe les musiciens qui s'amusent ou pas, ou qui le font sérieusement, à utiliser des jouets, des instruments d'enfants, des jouets sonores pour en faire de la musique. Donc voilà, c'est un terme assez générique. Après, moi j'essaye de faire quand même une musique qui se tient, même si j'utilise des instruments un peu bizarroïdes et pas habituels, j'ai l'impression d'avoir autour de moi des vrais instruments de musique que je manipule comme des vrais instruments de musique.
Et comment vous êtes venu à cette idée d'utiliser des jouets d'enfants pour faire de la musique?
Eh ben, je sais pas trop, à vrai dire. C'est pas une idée que j'ai eue comme ça un jour. Tiens, je vais faire de la musique avec des jouets. Mais c'est venu petit à petit. C'est vers 2003 que j'ai commencé grâce à l'AMAO, musique assistée par ordinateur, qui se démocratisait un peu. J'ai commencé à faire de la musique avec ce que j'avais sous la main. C'était des petits carillons, des mélodicas, peut-être ukulélé, trucs comme ça. Et puis après, j'ai découvert le toy piano avec toutes ces variantes. Donc, le toy piano, c'est un mini piano qui fonctionne non pas avec des cordes, mais avec des tiges métalliques qui résonnent et qui font donc un son assez particulier. Et de là, voilà, j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de jouets drôles, intéressants et esthétiquement beaux et sonorement aussi qui existaient. Et puis là, je me suis lancé dans une véritable quête de jouets pour en amasser plein, plein, plein.
Et justement, par rapport à cette quête de jouets, de ce que j'ai compris, vous avez amassé beaucoup de jouets, notamment en passant par des brocantes, par des vide-greniers, etc. Je me demandais si derrière, il y avait un geste un peu écologique dans l'idée de récupérer des objets qui existent déjà, et pour en détourner un peu l'utilisation, mais voilà, faire de la récupération.
Ouais, alors la question écologique évidemment m'intéresse, mais après ce serait mentir que de dire que c'est une démarche écologique que de récupérer des jouets, même si en effet je préfère utiliser des vieux jouets, des jouets de seconde main, parce que déjà ils sont anciens et donc plus jolis, plus ils ont une histoire. J'aime beaucoup les vieux objets. Et donc, je préfère amplement, oui, utiliser des jouets qui ont servi plutôt que d'acheter du neuf avec beaucoup plus de plastique et avec une durée de vie beaucoup plus limitée. Donc, oui, c'est une démarche écologique, ça c'est sûr, puisque je récupère des jouets qui parfois seraient jetés parce que certains jouets peuvent trouver acquéreur aujourd'hui, les petits synthés, tout ça, on sait que ça plaît encore aujourd'hui, mais d'autres ont tendance à être jetés. Donc voilà, en effet, je pense que je préfère récupérer que d'acheter du neuf, c'est sûr. Dans la vie en général, d'ailleurs, avant de devoir acheter quelque chose de neuf, je réfléchis toujours à la possibilité de plutôt acheter de l'occasion, évidemment, beaucoup.
Est-ce que justement, vous pouvez nous raconter comment se passe la recherche de jouets? Par exemple, qu'est-ce qui vous fait choisir un jouet plutôt que celui d'à côté?
La recherche de jouets, elle se fait donc quand j'ai l'occasion de me promener dans des allées d'Emmaüs, de vide-grenier ou de brocante ou autre. J'aime ça pour trouver des jouets, mais pour trouver aussi des beaux et vieux objets originaux, rigolos. Donc, quand je vois un truc, quelquefois, je peux pas le tester parce qu'il n'a pas de piles. S'il a des piles, par exemple, il n'a pas de piles, il marche pas. Ça m'arrive très souvent d'acheter un jouet sans savoir s'il va fonctionner. Donc ça, si je rentre chez moi et qu'il n'a pas fonctionné, j'ai perdu 1,50 € et c'est pas très grave. J'aurais essayé. Et puis justement, quelquefois, j'achète des trucs en me disant, oh, y a peu de chances qu'il marche, et puis il marche, et puis il fait un super son intéressant.
Mais du coup, là, qu'est-ce qui fait qu'il y a un jouet qui va attirer votre œil? Est-ce que c'est une question de coloris, de forme? Ouais, qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par un jouet et pas par un autre?
Là, c'est plutôt par le fait que je vais comprendre en l'observant qu'il a l'air de faire du bruit, du son, de la musique, et que je me dis que tiens, ça peut être intéressant. Donc, quelquefois, je le manipule. S'il n'est pas à pile, je peux tout de suite voir qu'est-ce qu'il fait comme son. Et s'il fait un son intéressant que j'ai pas ou que j'ai déjà d'ailleurs, parce que quelquefois j'amasse aussi en me disant peut-être qu'un jour j'aurai besoin de 50 moulins à musique, ça me servira à quelque chose. Donc j'ai tendance à amasser même si j'ai déjà l'objet. Donc voilà, c'est en le regardant et puis en me demandant si je pourrais l'utiliser un jour.
Et est-ce qu'il y a un jouet qui vous a marqué plus que les autres? Que ce soit au niveau de son esthétisme, de sa sonorité.
Ouais, je pense que c'est le Toy Piano dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un petit piano, c'est chromatique, c'est-à-dire qu'il y a les touches blanches et les touches noires, ça sonne plutôt juste, enfin certaines marques en tout cas, françaises d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres marques américaines ou autres qui sonnent un peu moins bien, et donc c'est la marque Michelson, que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise toujours un petit peu, et voilà, c'est un jouet qui m'a marqué parce qu'il m'a permis de commencer vraiment à m'exprimer avec les jouets musicaux. Et puis, comme je disais, comme il est chromatique, on peut presque tout jouer dessus. Il sonne très bien. On peut bien jouer dessus, presque comme sur un vrai piano classique. Et voilà. Donc, je pense que ouais, le Toy Piano Michelson m'a bien plu au début de ma vie.
Donc votre musique, elle est faite à partir de tous ces jouets, des jouets qui font parfois des bruits très différents. Comment on fait pour les accorder ensemble, pour en faire une mélodie qui soit agréable à écouter?
Ben, les vieux jouets justement des années 60, 70, 80, en général, les fabricants, visiblement, essayaient de les rendre à peu près accordés, mais vite fait quoi. Par exemple, une rangée de cloches qui vont du do au do suivant, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, eh ben, on discerne bien que c'est une gamme qui va de do à do. Après, quelquefois, c'est un petit peu faux. Et le faux, selon le contexte et selon ce que j'ai envie de faire, le faux n'est pas forcément, ne me dérange pas forcément parce qu'il apporte une fébrilité, une bancalité à la musique. Et c'est ce qui me plaît aussi.
Et est-ce que, avant de commencer à rassembler les sons, les jouets, vous avez une idée en tête de ce que ça va donner, ou alors de là où vous voulez arriver, ou alors est-ce que vous laissez plutôt porter?
Ouais, je me laisse plutôt porter, c'est-à-dire que quand je décide de faire de la musique, de créer, je me donne 10-15 heures de libre devant moi, et puis je commence en improvisant, c'est-à-dire que je prépare pas avant un morceau. Pour l'enregistrer ensuite en studio, j'y vais direct, j'enregistre directement. Je peux commencer par des accords de synthé, par une boîte à rythme, par un petit truc, par une clochette, plutôt des accords quand même, ou des rythmes. Et puis après, je continue, je développe, et puis au bout d'un moment, un morceau commence à naître. Et puis là, je travaille un peu dessus pour lui donner du corps.
Et donc, dans votre parcours, vous avez aussi proposé des spectacles pour enfants. Entre ces spectacles-là et le fait d'utiliser des jouets, je me demandais s'il y avait une sorte de volonté de votre part de retourner en enfance grâce à la musique, peut-être de retrouver des souvenirs, des sensations de votre enfance.
Ouais, alors on me pose parfois cette question-là, mais retour en enfance, je pense pas parce que je pense que j'ai jamais trop quitté l'enfance, le jeu. Je m'amuse beaucoup, je joue avec des jouets, je joue pour les enfants comme. Non, j'ai pas non plus eu trop de jouets musicaux étant enfant. J'ai eu des jouets, mais j'ai pas eu des jouets musicaux, donc c'est pas des souvenirs que j'essaie de retrouver. Mais c'est sûr que oui, passer son temps à jouer sur des jouets et à jouer pour les enfants, voire parfois des bébés, c'est sûr que je suis dans le monde de l'enfance, comme un instituteur en maternelle et aussi dans le monde de l'enfance.
Donc là, l'album qui vient de sortir s'appelle Collector, c'est votre quatrième album, sachant que le précédent qui s'appelait Robotank Z datait de 2013. Qu'est-ce qui vous Redonne envie de faire un album 7 ans après le dernier.
Ouais, alors c'est long, 7 ans, mais ça a passé vite en même temps. J'ai passé beaucoup de temps à jardiner, à développer un peu de biodiversité dans le nouveau lieu dans lequel j'habitais. Et puis, il m'a fallu attendre d'avoir un petit déclic et puis d'avoir envie de... J'ai jardiné, mais j'ai aussi beaucoup joué, énormément joué en concert pour des spectacles justement pour enfants, un peu partout. J'ai beaucoup galopé dans tous les sens. Et quand je galopais pas, je jardinais. Et donc, à un moment donné, il y a eu un petit déclic. J'avais pas forcément envie d'enregistrer des trucs. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, et si je m'y mettais? Allez, mardi prochain, je me dis que je commence. Et puis, à partir de ce moment-là, j'avais un peu préparé le terrain en amassant, en achetant des jouets plus électroniques que ce que j'avais avant. Parce qu'au début, j'achetais plutôt des jouets acoustiques. Et du coup, j'ai commencé avec une petite base nouvelle de jouets. Et puis, je suis parti sur les synthés. Et puis, le premier morceau m'a bien plu. Puis, je me suis dit, allez hop, je pars pour un disque. Mais qui m'a quand même pris un an et demi, 2 ans.
Et justement, jusqu'à présent, sur les précédents albums, vous utilisiez des jouets classiques, on va dire. Là, pour Collector, vous avez amassé des jouets électroniques. Tout à l'heure, vous parliez des synthétiseurs. Il y a aussi tout simplement des jouets piles. Pourquoi se centrer sur les jouets électroniques cette fois-ci?
Parce que jusque-là, j'avais un peu fait l'impasse justement dans mes recherches de jouets. J'achetais plutôt des trucs acoustiques. J'ai dû me dire, il serait peut-être temps de plonger dans ce monde électronique-là qui colle justement à ma thématique du jouet musical, avec tous ces synthés, tous ces jeux éducatifs, apprendre à compter, à lire, à écrire avec une voix robotique. Et voilà, je suis parti là-dedans et puis j'ai oublié ta question.
Pourquoi se centrer sur les jouets électroniques? Mais du coup, c'est...
Oui, voilà, c'est ça. C'était... Et puis aussi une envie de renouvellement, c'est-à-dire que les précédents albums sonnaient plus acoustiques. Et puis une autre raison aussi, c'est que je me suis rendu compte rapidement que le synthé, le petit clavier, me permettait aussi d'obtenir des bonnes basses. Important en musique, les basses. Et pour les précédents albums, je faisais appel à des amis qui rajoutaient des lignes de basse parce que je suis pas bassiste. Et là, du coup, je pouvais me permettre de le faire moi-même en utilisant des sons graves de synthé. C'était un ensemble de choses qui m'a donné envie d'aller vers là, vers la musique un peu électronique finalement.
Et juste avant de continuer, on écoute justement une des chansons de l'album Collector qui s'intitule Old Toys.
Thank you.
sur le 101.1 FM dans l'émission « C'est où qu'il dit ?» et c'était « Old Toys » de l'artiste Chapi Chapeau. Et justement, on est toujours avec Chapi Chapeau, Patrice Elégoette de son vrai nom, pour discuter de la création de cet album. Et donc là, le dernier album s'appelle « Collector ». D'où vient ce titre-là, « Collector » ? Est-ce que c'est en référence au jouet qui était peut-être plus difficile à trouver, plus rare ?
Ouais, c'est ça. J'ai fait le choix de. Je me suis amusé à compter le nombre de jouets que j'ai utilisés pour cet album. Il y en a 73. D'ailleurs, il compose un peu le visuel de la pochette. Et pourquoi collector ? Parce que ouais, pour la plupart, c'est des jouets un peu collector, un peu rares, un peu qui commencent à être un peu vieux. Et donc, commence à être difficile pour certains de trouver en bon état de fonctionnement.
Et donc là, dans ce dernier album, cet album, il est en collaboration avec plusieurs artistes, par exemple Troy von Balthazar, j'espère que je prononce bien, oui. Ou encore Jade Fer. Comment vous avez choisi, pourquoi eux ?
Pourquoi eux ? Ben déjà parce qu'ils ont accepté, parce que je leur ai proposé. J'ai imaginé quelle voix de quel artiste pouvait coller aux morceaux instrumentaux que je composais en prévision d'avoir de la voix dessus. Et puis voilà, Jade Fer, je l'avais vu au Festival Invisible à Brest il y a 2 ans avec son groupe, Japanese, j'avais beaucoup aimé. Et puis c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Et puis voilà, je lui ai envoyé un petit message pour lui proposer de chanter sur des jouets. Et puis l'idée lui a plu. Et puis c'est pareil pour tous les chanteurs et chanteuses qui chantent sur ce disque. Après, il y en a que j'ai croisé dans la vraie vie avant de leur proposer, comme Tiny Feet, avec qui j'avais eu un projet en groupe qui s'appelait à l'époque, c'est apostrophe H. Laetitia Sherif, je l'avais déjà croisée aussi, et puis G.W. Sock, chanteur hollandais, c'était le quatrième morceau qu'on faisait ensemble.
C'est quoi les thèmes qui sont abordés dans cet album et pourquoi ce thème-là ?
Alors, quand je propose un morceau, un de mes morceaux à un chanteur ou une chanteuse, je les laisse complètement libres de faire ce qu'ils veulent, de chanter ce qu'ils veulent et de chanter de la façon dont ils veulent. J'ai pas envie de donner de directives. Donc les thèmes qu'on retrouve dedans sont assez variés. Ça peut parler d'écologie, de vieillesse, de destin, de féminisme aussi. Enfin, il y a un peu de tout. C'est un mélange de thèmes assez universels et actuels.
Et je me demandais quel a été l'impact du confinement sur la production de l'album. Est-ce que ça vous a inspiré ou est-ce qu'au contraire ça vous a freiné dans votre créativité ?
Alors, premier confinement, l'album était terminé, mais le mixage n'était pas fait. Donc, pendant le confinement, le mixage devait se faire, sauf que ça a été un peu compliqué pour la personne qui devait le mixer à Rennes, Thomas Poli. Il a quand même réussi à coup d'attestation à pouvoir rejoindre son studio et donc mixer l'album à distance. Donc ça a été assez compliqué parce que moi j'avais un problème de connexion internet qui a duré des semaines. Donc je devais, habitant à la campagne, aller télécharger sur une petite montagne les mix qu'il m'envoyait pour aller les écouter chez moi. Donc j'ai beaucoup marché pendant le mixage, qui est plutôt original.
Ouais, donc pas évident le confinement. Si je ne me trompe pas, vous avez choisi le parti pris de ne pas faire de tournée, de concert, cet album. Pourquoi ?
Alors, pour plusieurs raisons. Parce que je n'avais pas envie de me limiter artistiquement. C'est-à-dire que quand on fait un disque qui est destiné ensuite à tourner en concert, ben, c'est toujours important de savoir si ça va être réalisable. Et là, j'avais envie d'y aller franco. J'avais pas fait de musique comme ça depuis 7 ans, depuis l'album en 2013. Donc j'avais envie d'y aller. Et puis l'autre raison aussi, c'est que comme je tourne beaucoup pour des spectacles jeunes publics, à un moment donné, ça devient compliqué de trouver des créneaux pour rajouter un autre projet. Et puis là, comme j'avais 2 nouveaux projets jeunes publics, c'est-à-dire pour enfants. Voilà, ça suffisait, donc je me suis lancé dans la création d'un disque et c'est tout.
Et justement, en parlant de projet, c'est quoi vos projets pour la suite ?
Justement, c'est plutôt des spectacles pour enfants. Il y en a un qui va être rigolo, qui s'appelle Tilt, et qui se passera dans une chambre d'enfants des années 80 qu'on va reconstituer. On sera trois musiciens, et puis on va jouer avec des jouets des années 80, donc pas mal de jouets électroniques. Et puis un autre spectacle aussi que je fais avec Arnaud Le Guéflec, Laurent Richard, Delgado Jones et Thomas Luca, j'ai oublié personne. Et là, ce sera plutôt dans le monde des pirates. Et donc, ce sera un mélange de musique, de chansons, de contes, de projections, d'ombres chinoises, etc.
Ouais, donc des beaux projets qui arrivent.
C'est ça.
Ben, merci beaucoup pour cette interview.
Merci à toi.
C'était donc Patrice Elégoette, là pour nous parler de sa démarche intrigante d'utiliser des jouets pour faire de la musique et de son dernier album sorti le 4 décembre dernier qui s'intitule Collector et que vous pouvez vous procurer un peu partout. Et maintenant, on écoute un reportage réalisé par Laurette qui raconte Passerelle.
Un centre culturel fermé au public, ce n'est pas forcément un centre culturel vide. Que se passe-t-il derrière les murs quand le public n'est pas là ? De Reda Boussella du programme des chantiers résidences à Hilary Galbraith ou Vincent Malassi accueilli pendant le confinement, les artistes continuent d'occuper les lieux, tout comme les membres de l'équipe, comme Emmanuel Balladier et Loïc Le Gall. Je vous propose de passer de l'autre côté des expositions pour découvrir la partie immergée de Passerelle.
Là, c'est une flûte à partir d'un tuba avec un biniou aussi.
Les expositions, c'est toute une partie que tout le monde connaît. Mais finalement, un centre d'art, ce n'est pas que ça. C'est des résidences, c'est un atelier toujours vivant, c'est des actions de médiation dans les écoles, dans les EHPAD ou dans d'autres endroits, bien sûr. Et c'est vraiment une partie émergée de l'iceberg, l'exposition.
Passerelle parce que j'ai exposé ici l'année dernière et c'est un lieu que j'aime bien, un lieu où il faut venir et c'est un lieu de vie et du coup c'était l'occasion aussi pendant le confinement de profiter des locaux. Non voilà, c'est un lieu pour travailler, c'est assez agréable. Il y a de la vie, il y a les artistes à côté qui font des pièces.
Vincent Malassi, il est artiste, compositeur. On l'a accueilli nous ici il y a quelques années pour une exposition. Et là, en fait, pendant le confinement, il nous a dit, moi, du coup, je cherche un lieu actuellement pour enregistrer mon prochain album et tout ça. Donc, on lui a dit, écoute, la maison est à toi, tu la connais. Et donc, on l'a installé là-bas depuis trois semaines, un mois presque.
L'accompagnement et le fait de produire en fait des œuvres d'art avec des artistes, qui est une mission essentielle d'un centre d'art en France. On a vraiment cette mission de soutenir la jeune création et cette mission de construire, d'aider. Et on est là vraiment dans notre mission de base en fait presque. Hein.
De résidence qui s'appelle les chantiers résidences. Donc en fait, depuis 2013, tous les ans, on invite deux artistes récemment diplômés, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils ont des idées, ils ont des projets, ils ont des envies, mais ils n'ont pas ni les finances pour le faire, ni le studio ou l'atelier. Et donc en fait, nous, on leur donne un petit peu ça.
T'as un téléphone, je suis en train de fabriquer. Là, il y a un plongeoir qui va servir de socle pour une sculpture. Là, c'est plus un espace dédié pour les petites pièces. Là, c'est des pare-soleils de voiture que j'ai redécoupé un peu pour reprendre les formes de Matisse, mais avec des objets un peu plus contemporains, une coupe et là, une chaise, quoi, de plastique de jardin. Enfin, je récupère pas mal ce qu'on appelle les déchets de l'atelier pour essayer de les réintégrer dans mon travail après.
C'est un napolitain ?
Ça, c'est un napolitain. C'est un morceau de mousse qu'il y avait dans l'atelier. Un panini en pyrogravure. En ce moment, je fais des tests de marimba. Enfin, c'est un espèce de xylophone en bois. Du coup, je regarde avec différentes essences de bois. Enfin, là, je fais des touches un peu traditionnelles de marimba pour voir l'épaisseur qu'il faut. Et du coup, je compare un peu les essences de bois pour voir sur quoi je pars. Et je regarde plein de tutos sur Internet. Parce que je suis pas du tout ni facteur d'instruments, ni musicien. Et, du coup, c'est plutôt... grâce à Internet que j'arrive à faire tout ça.
C'est évidemment de soutenir la création en Bretagne. L'appel à projet, c'est vraiment pour les artistes demeurant en Bretagne. C'est la première chose. Et après, la seconde chose, c'est vraiment aussi l'accompagnement et le fait de produire en fait, des œuvres d'art avec des artistes, qui est une mission essentielle d'un centre d'art en France. On a vraiment cette mission de soutenir la jeune création et cette mission de construire, d'aider. Et on est là vraiment de notre mission de base, en fait, presque.
Du coup, là, je vais faire ce qu'on appelle le mordant songe. J'utilise de l'acétate aluminium comme mordant et ça sert à faire mordre les couleurs, les colorants, pour que ça puisse être absorbé par les tissus comme le coton. Donc là, je viens de le mettre et maintenant j'attends que ça chauffe. Ouais, on peut aller dans le sud. Je m'appelle Hilary Galbraith, j'ai grandi en Californie du Sud. Moi, je travaille avec des fictions que j'écris et je dessine aussi. Et puis après ça, ça devient des grosses installations vidéo avec des performances. Je fais des costumes, notamment des éléments de scène, des accessoires. Depuis juillet, j'ai commencé à faire tenter tous les tissus que j'utilise avec les teintures végétales. Donc, je suis venue ici pendant 2 semaines et demie pour pouvoir faire des très grandes teintures parce que dans mon atelier à Rennes, j'ai moins d'espace. Et du coup, ici, l'équipe technique m'a aidé à trouver une cuve assez grande avec un système de gaz pour pouvoir faire des grands tissus assez vite. Après, je vais tenter avec... Je ne suis pas en résidence. Je squatte la résidence de Reda un petit peu. Ça veut dire que je suis logée dans l'appartement des artistes en résidence. Et je peux travailler ici. Mais sinon, oui, c'était juste pour pouvoir faire ces grandes productions. Et le reste de la production, je fais à mon atelier.
Les pieds de tête de flamme en rose, très en étroit. Et en fait, j'en ai mis 4 par-dessus. Et je vais essayer de prendre une peau après.
D'accord. Il faut que je... sur le corps du...
Non, du tout, c'était ce qu'il
y a. Et là, c'est vrai qu'avec toute la mise en place qu'il y a ici, enfin, l'équipe technique, administrative, enfin, ça crée quand même une belle dynamique qui amène à être vraiment confortable avec son projet. Il y a beaucoup de rencontres aussi qui font que on est amené à souvent parler de son travail et à le montrer à d'autres personnes. Enfin, on a vraiment cette impression que notre travail vit plus que quand on est tout seul. Enfin, il est amené à résonner, quoi, beaucoup plus.
C'était un reportage de Laurette qui est allée au cœur de Passerelle. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio.
se prend et se détend entre ces gens qui se sourient. On connaît bien le beau chemin entre chez moi et ce bistrot. On rêve tous de son parfum, même au petit matin. Je souhaite m'enfuir.
Radio-U.fm à Brest. We'll be right back. soleil.